Radio Prague, les informations.
La Chambre basse du Parlement approuve un projet de loi visant à retirer aux députés incarcérés leurs salaires et avantages. Le président Miloš Zeman refuse de nommer professeur d'université un de ses plus virulents critiques. Et puis en tennis au Masters 1000 de Rome, Berdych crée la surprise en éliminant Novak Djokovic en quart. La Chambre basse du Parlement a approuvé ce vendredi un projet de loi qui permettra de retirer leurs salaires et autres avantages liés à leurs fonctions aux députés incarcérés. Le projet de loi déposé par le Parti civique démocrate ODS a été soutenu par 119 des 200 membres de la Chambre des députés tchèques. Cette nouvelle législation trouve un écho particulier au moment où deux députés, l'ancien social-démocrate David Rath et l'ancien membre du Parti civique démocrate Roman Pekarek, sont en prison, le premier étant en détention préventive et soupçonné de corruption, le second ayant été condamné à 5 ans de prison pour corruption. Le projet de loi doit désormais être débattu au Sénat. Le président Miloš Zeman a refusé de nommer au poste de professeur d'université Martin Putna, un enseignant de l'université Charles, qui est également un de ses plus virulents critiques et qui a soutenu la candidature de son opposant. Lors de la récente élection présidentielle, le nouveau chef de l'État n'a pas voulu donner ses raisons, arguant simplement qu'il ne souhaitait pas humilier Martin Putna, tout en précisant que si ce dernier se tournait vers la justice, il les révélerait. Le recteur de l'université Charles a demandé des explications à la présidence tchèque, tandis que le principal intéressé, Martin Putna, a déclaré qu'il laissait l'affaire à l'université. La nomination des professeurs d'université fait partie des pouvoirs attribués au président de la République. Dans le passé, les chefs d'État ont généralement toujours respecté les propositions de la communauté académique. La République tchèque pourrait à nouveau protéger l'espace aérien des Pays-Baltes. En 2015, a déclaré le premier ministre tchèque, Petr Nečas, ce vendredi à Riga, après avoir rencontré son homologue lituanien, Valdis Dombrovskis. Les avions de chasse tchèques Yas-39 Gripen ont assuré une mission de protection des Pays-Baltes pendant 4 mois l'année dernière et en 2009. Les Pays-Baltes ne possédant pas leur propre flotte supersonique, ce sont d'autres membres de l'OTAN qui sont chargés de missions ponctuelles de surveillance de leur espace aérien. Petr Nečas et Valdis Dombrovskis se sont fait féliciter de bonnes relations bilatérales entre les deux pays et ont déclaré leur volonté de renforcer leur coopération économique. Face à l'intérêt grandissant de nombreuses femmes après l'annonce de la double mastectomie de l'actrice américaine Angelina Jolie, la Caisse tchèque d'assurance maladie a décidé d'en profiter pour lancer une campagne de prévention sur le cancer du sein. Elle propose à ses clientes de leur rembourser en intégralité des examens préventifs de dépistage jusqu'à la fin novembre. Cela concerne notamment les femmes de moins de 45 ans, âge à partir duquel elles ont le droit à une mammographie gratuite une fois tous les 2 ans. L'écrivain français Alexis Génie, prix Goncourt 2011, est à Prague ce week-end pour le salon Le Monde du Livre afin de présenter la traduction tchèque de son roman L'art français de la guerre, publié aux éditions Argo. Il sera notamment samedi à partir de 14h au Parc des Expositions. Se déroule le salon pour une séance de dédicaces. À 10 jours de Roland-Garros, le tchèque Tomáš Berdych, numéro 6, a créé la surprise en éliminant le serbe Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, en quart de finale du Masters 1000 de Rome. En 3-7, 2-6-7-5-6-4, pourtant mené 6-2-5-3, le Tchèque a su inverser la tendance pour aller chercher la victoire. Tomáš Berdych se qualifie donc pour les demi-finales où il affrontera Rafael Nadal ou David Ferrer. Samedi, jour de fête des Natacha, le temps sera variable, alternant éclaircies et averses. Le nord du pays sera plutôt couvert. Les températures oscilleront entre 18 et 22 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter, Anna Kubichta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Prague pour votre magazine d'actualité tchèque. Merci à Anna Kubichta pour son bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, comme tous les 15 jours, nous retrouverons notre rubrique Miroir de la société présentée par Alena Gabertova. Ce sera de la seconde partie de cette émission, mais avant cela nous intéresserons à la mode tchèque vue par l'objectif de photographes français. Mais tout de suite, retour sur la disparition de Václav Komárek, homme politique clé de la révolution de velours, décédé à 82 ans ce jeudi. Vous écoutez Radio Prague, très bonne écoute. Économiste, pronostiqueur et surtout l'un des hommes politiques clés de la révolution de velours, Václav Komárek est décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans. Il avait été hospitalisé quelques jours auparavant suite à une aggravation de son état de santé liée à une opération du cœur. La scène politique entière lui rend hommage ce vendredi par des mots de respect et d'estime et traduisant sa tristesse par un « vous allez nous manquer ». Un homme aux idées à la fois originales et inaltérables et au parcours insolite. C'est presque du jour au lendemain que Comin Harek, un économiste quasi inconnu du public et directeur du bureau des pronostics de l'Académie des sciences depuis 1984, devient symbole de la révolution de velours. La foule scande son nom le 27 novembre 1989 à Prague, alors qu'il s'adresse à elle pendant que le régime communiste achève de s'effondrer.
Je suis extrêmement heureux que nous y soyons arrivés. Nous allons pouvoir bâtir une nouvelle Tchécoslovaquie démocratique et prospère pour tous.
L'évêque Václav Mali explique la raison de cette popularité soudaine.
Il a su encourager le peuple de façon très simple, en leur expliquant également certaines questions économiques, ce qui était très important.
Originaire de la ville de Hodonin, et né le 10 août 1930, Walter Komarek était issu d'une famille juive, et ce n'est que grâce à ses parents adoptifs qu'il a échappé à l'Holocauste. Après la guerre, il devient membre du Parti communiste, car comme il le disait lui-même, il croyait à ses idéaux. C'est sa coopération avec le révolutionnaire latino-américain Che Guevara entre 1964 et 1967 qui le fait connaître. Mais il s'inscrit définitivement dans l'esprit des gens en tant que directeur du bureau des pronostics de l'Académie des sciences tchèque, lequel mandatera à la haute fonction publique après 1989 tout un groupe d'économistes dirigé par l'ancien ministre des Finances Václav Klaus. Komarek devient vice-président du premier gouvernement post-révolutionnaire d'entente nationale en décembre 1989. Il a même été pressenti avec Alexander Dubček et Václav Havel pour le poste de président de la Tchécoslovaquie. Actif au sein du Forum civique, de Havel et de l'Assemblée fédérale, il soutient le retour de la social-démocratie dont il devient membre en 1991 et député en 1992. Komarek n'a jamais caché son esprit réformiste et ses opinions de gauche. Et tant les hommes de gauche que de droite le respectaient pour sa modestie, ses opinions ou son point de vue économique. S'il s'était retiré de la scène politique après la scission de la Tchécoslovaquie en 1993, il a continué à commenter la vie publique autour de lui. On peut entendre ses opinions sur la démocratie tchèque dans ce documentaire réalisé en 2009.
La půda parlamentu by samozřejmě měla být půda z hlediska demokracie.
Du point de vue démocratique, le sol du Parlement devrait être bien évidemment un sol sacré, comme un sanctuaire de la démocratie. Mais bien sûr, il s'agit d'une théorie. En pratique, des lobbyistes et des négociateurs arpentent les couloirs, et on se retrouve face à un grand business.
Pour lui, le Parlement est une vitrine qui doit être régulièrement nettoyée pour la rendre bien transparente. La société de consommation qui a remplacé le communisme aurait dompté, démoralisé et même dérouté les personnes en en faisant des idiots une fois encore. Il est nécessaire, selon lui, de passer par le respect de l'individu dans un monde rempli de divergences et de tragédies, car ces deux sphères, la société et l'individu, sont parallèles et indissociables.
Il faut se dire que c'est notre vie.
Il est nécessaire de se dire, c'est notre vie, c'est ma vie, c'est moi qui la forme. Mais c'est également ma société, je vis au sein d'elle et je veux que la société soit polie et respectueuse. Je veux être poli, non pas pour me vanter, comme si je prenais ma douche le soir et que je dis aux autres, regardez-moi, je me suis lavé, mais je suis poli parce que je veux être poli.
Lors de cet entretien en 2009, Komarek invitait à davantage de discussions claires et explicites sur la société et sur la politique, dans la mesure où l'accès au pouvoir ouvrait la clé au canot de l'argent dont il est possible d'abuser. Si Komarek était un fervent défenseur du simple citoyen, il avait aussi dénoncé le comportement de la société actuelle, pour laquelle le mot « profiter » se serait substitué à celui de « vivre ». Il insistait sans cesse sur le besoin de protéger la démocratie sans relâche.
La démocratie en pratique est ohrožena.
La démocratie est menacée en pratique. C'est pourquoi je clamerai de toutes mes forces. Citoyens, protégez votre démocratie. Elle est en danger. Protégez-la. Elle vaut la peine d'être protégée.
Braňte ji, stojí to za to.
Si pendant la révolution de velours, Walter Komarek incarnait l'espoir de rendre la politique chose publique, et s'il était plébiscité comme le plus à même de défendre cette idée parmi tous les autres hommes politiques, l'incarnation même de l'espoir n'a pas suffi à le propulser par la suite dans une participation active et critique de la politique, mais rien n'a jamais pu l'empêcher de s'exprimer. Jusqu'au 8 juin, le Centre tchèque de Paris accueille l'exposition mode.cz qui présente la jeune mode tchèque vue par l'objectif de jeunes photographes français. Initiée par l'Association des étudiants et jeunes professionnels tchèques en France et le collectif 5,6, l'exposition nous est commentée par Miroslav Sabo, un jeune couturier dont les créations seront à voir en photo, et par Klára Knotová, son organisatrice, qui a détaillé au micro de Radio Prague ce que l'on peut voir à l'exposition. Un sujet d'Anna Kubišta.
Il s'agit d'un projet, en fait, d'une collaboration entre les jeunes créateurs de mode tchèques et des photographes français. Les créateurs tchèques ont tous des liens avec la France, donc c'est pour ça qu'ils étaient intéressés par ce projet, qu'ils avaient envie de découvrir un peu plus la France et une collaboration avec les Français. Et du côté français, c'est un collectif de jeunes photographes qui sont à la base 5, mais là, ils ne sont que 3 qui participent au projet parce que les autres sont à l'étranger pour le moment. Donc c'est un collectif de jeunes photographes français qui sont tous de Paris ou des environs, qui font de la photo exclusivement en argentique. Donc c'est aussi un aspect qui nous a pas mal plu parce qu'on pense que la photo numérique, on est un peu partout, on est un peu saturé de ces photos, de ces images qui sont prises un peu, de ces images qu'on oublie une minute après qu'on les a regardées. Donc on voulait vraiment quelque chose où on voit aussi un peu le travail artisanal.
Est-ce que vous pourriez un petit peu nous rappeler comment est né le projet exactement ?
Donc le projet, en fait, il est né d'une coïncidence parce que moi, qui suis à Paris depuis quelques années, en fait, je cherchais une colocataire parce que la mienne est partie pour Londres. Et là, sur le moment, j'ai eu pas mal de propositions. Et parmi toutes ces filles qui faisaient un peu la même chose que moi, savoir droit, économie, tout ça, il y en avait une fille qui est venue à Paris, une jeune créatrice de mode qui est venue à Paris, en fait, pour faire un stage dans un atelier de la haute couture. Et donc, je m'étais dit que ce serait effectivement intéressant de vivre avec une personne qui vient d'un univers complètement différent. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. On a vécu ensemble pendant une année. Et en fait, c'est elle qui m'a présenté Miro, tous les autres créateurs, et donc c'est un peu ça que l'idée est née, en fait.
Alors ça me fait une très bonne transition, je me tourne vers vous Miroslav, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter? Alors évidemment on est à la radio, donc la radio il n'y a pas d'image, est-ce que vous pourriez un petit peu présenter le travail qui sera dans le cadre du projet mode.cz?
Alors moi je suis un des participants de ce projet, et en fait moi je peux dire que je suis connecté aux professionnels. Comme moi, j'ai fini mon école, et en même temps, je suis un professionnel qui essaye de produire, de créer la mode en Tchéquie. Et en même temps, j'avais aussi fait un stage à Paris pendant un an et demi pendant mes études.
Qu'est-ce qu'on pourra voir de vous à cette exposition?
Alors, j'ai quelques tenues qui ont été présentées pendant le dernier Design Block. À Prague en octobre 2012, et avec cette collection qui a été présentée à Design Block, j'étais aussi nominé pour Czech Grand Design comme le créateur de l'année.
Justement, vous rappeliez tout à l'heure que de nombreux créateurs, jeunes créateurs tchèques sont installés à Paris. Par exemple, je pense à Katarzyna Gajslerova, qu'on a déjà souvent eu l'occasion d'interviewer sur Radio Prague. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Paris est toujours à la pointe de la mode, et que c'est une des raisons pour lesquelles des créateurs tchèques se retrouvent à Paris?
Tous les créateurs qui participent dans ce projet, ils ont des connaissances de Paris, ils ont des liens avec des Paris. Soit ils ont fait des stages ici, je peux mentionner Pavel Breka qui a travaillé chez Balenciaga, et Kupolanka qui a travaillé dans beaucoup des ateliers, et notamment aussi quelques étudiants ont déjà fait un stage à Paris. Les étudiants des arts appliqués, de l'école des arts appliqués qui participent dans cette expo ont déjà fait l'expo.
C'est difficile de faire son trou en tant que jeune créateur tchèque en France?
Je ne peux pas dire que j'essaye forcément de trouver ma place ici, c'est plutôt d'avoir certains liens, certaines connaissances, peut-être trouver de lieux où on peut vendre ses créations. Mais je peux dire, dès mes débuts à Paris, quand j'étais en stage ici, C'était difficile au début, bien sûr, mais après, ça s'est très bien passé. J'ai appris très bien le français. Depuis ces moments, je suis très heureux et ça a été très... Jusqu'à maintenant, je peux profiter de mon séjour à Paris.
Restez avec nous pour la suite de notre émission. Notre rubrique Miroir de la société s'intéressera cette fois aux deux événements culturels aux couleurs franco-tchèques qui ont trouvé écho dans la presse de cette semaine, à savoir l'ouverture du 68e Printemps de Prague par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le début du Festival international du film de Cannes. Notre attention a été également attirée par une réflexion sur la situation des Roms en République tchèque à l'occasion de la commémoration de l'Holocauste des Roms. Plus de détails avec Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Comme le veut la tradition, le festival de musique Le Printemps de Prague, qui en est cette année à sa 68e édition, a été ouvert le 12 mai par le cycle symphonique Ma patrie de Bedřich Smetana. Cette œuvre nationale, par excellence, a déjà été interprétée à ce festival par des orchestres étrangers. C'est toutefois la première fois que cette tâche est revenue à un orchestre français, en l'occurrence l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par la baguette du Canadien Peter Udjian. Le quotidien Lidové Noviny s'est enthousiasmé pour cette prestation.
Nous n'avons pas le monopole pour Ma patrie. Le fait que les différents orchestres et les différents chefs d'orchestre, locaux et étrangers, se passent le relais pour l'exécution du concert d'ouverture est une bonne chose. Interpréter cette œuvre n'est facile pour aucun des orchestres étrangers. Il faut donc d'autant plus apprécier l'aplomb et la maîtrise avec lesquelles elle a été exécutée cette fois-ci. La sonorité de l'orchestre français a été monumentale et haute en couleur.
Pour l'auteur de l'article, cette interprétation magistrale de l'œuvre de Smetana n'a rien à envier à celle de la Philharmonie tchèque. Les qualités d'interprétation et l'excellente couleur musicale de l'Orchestre Philharmonique de Radio France ont également été mises en relief par une critique publiée sur le serveur actualnet.cz. Son auteur est lui aussi conquis par l'orchestre français.
Invité à Prague, l'Orchestre Philharmonique de Radio France était une bonne idée. C'est d'ailleurs pour la 4e fois seulement dans l'histoire du festival vieille de 68 ans qu'un orchestre étranger a exécuté cette œuvre de Smetana à Prague. L'orchestre français s'est merveilleusement sorti des écueils de la partition, le tout étant présenté avec le sourire et de façon décontractée. Voilà pourquoi l'orchestre a été également agréable à regarder.
Et l'auteur de cet article a souligné que l'exécution française de Ma patrie a donné une réponse claire à la question de savoir si seuls les instrumentistes tchèques sont capables de comprendre cette œuvre ou s'il est véritablement universel. Comme chaque année, la presse nationale prête un grand intérêt au Festival du film de Cannes qui vient de commencer. Ceci en dépit du fait que le cinéma tchèque n'y est pas depuis longtemps d'ailleurs représenté. Dans un article qui a été publié dans l'édition de ce mercredi du quotidien Lidové Noviny, Teresa Bedečková a écrit.
Le programme officiel du festival ne présente ne serait-ce qu'un seul long métrage d'un réalisateur de l'Europe centrale ou de l'Europe de l'Est. C'est vrai aussi pour la section quinzaine des réalisateurs. Même les Roumains, qui sont généralement tellement appréciés, sont absents. C'est assez étonnant car les technologies utilisées aujourd'hui ont donné de nouvelles possibilités aussi aux cinéastes issus de pays pauvres, comme en témoigne le festival de moindre importance qui se tient dans le monde. Le regard sur le programme du Festival de Cannes montre clairement une chose. Tandis que le Festival de Berlin s'ouvre à toutes les régions du monde, l'intérêt des Français ne couvre qu'une certaine partie du monde qui d'ailleurs ne cesse de se rétrécir.
Mladá Fronta Dnes a cité ce jeudi le producteur tchèque Viktor Toš qui se rend à Cannes dans le cadre du programme Producteurs en mouvement, dont l'objectif est la recherche d'échanges et de coproduction et qui a dit.
Depuis 23 ans, le cinéma tchèque n'a pas à Cannes de films en compétition. Pourquoi cette absence ? J'estime que le festival choisit des films qui sont soit très Est, soit très Occident, tandis que nous, nous nous trouvons à mi-chemin. Et surtout, chaque film en compétition doit être soutenu par un important producteur international, un grand studio, bref, par un important soutien financier.
Les Roms craignent que leur histoire tragique ne se répète. C'est ce que titre un article publié dans la dernière édition de l'hebdomadaire Respect, suite à la cérémonie religieuse qui s'est déroulée à Leti, à l'endroit où se trouvait pendant la Deuxième Guerre mondiale un camp de concentration destiné à la population Rom. L'article rappelle que les Roms, toutes les catégories d'âge confondues, de nouveau-nés aux vieillards, y vivaient dans des conditions inhumaines, souffrant de la faim, du froid, de maladie. Près de 300 détenus, y compris des enfants, sont morts directement à Leti, tandis que beaucoup d'autres ont été transférés au camp de la mort d'Auschwitz. Des 5000 Roms tchèques détenus à Auschwitz, un dixième seulement a survécu. Plus loin, l'auteur de l'article remarque.
Depuis l'an 1995, où le président Václav Havel a dévoilé à Leti un monument, une cérémonie commémorative s'y déroule régulièrement le 13 mai. C'est par ailleurs la dernière qu'un président de la République y a fait son apparition. Cette année, à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation du camp, on n'a vu venir aucun haut représentant politique, sinon une vice-présidente du Sénat.
Cette absence a été remarquée notamment à la lumière des problèmes qui sont actuellement liés à la situation de la minorité rome et au sujet de laquelle l'hebdomadaire a écrit.
La situation des Roms, surtout des Roms pauvres, ne cesse de se détériorer rapidement. Ils sont refoulés à la périphérie des villes ou vers leurs environs dans des ghettos. La ségrégation des enfants roms dans les écoles s'approfondit. S'agissant des manifestations anti-roms, on voit que ce ne sont plus seulement les néo-nazis, mais aussi des citoyens honnêtes qui clament des slogans pleins de haine, le tout avec le soutien de politiciens locaux.
En conclusion, l'auteur de l'article note.
Certes, faire une comparaison avec les années 1930 serait exagéré. Toutefois, on peut trouver certaines analogies. Peu de gens réalisent que les nazis en Allemagne et dans les pays occupés se sont servis de la législation alors en vigueur. Dans l'ancienne Tchécoslovaquie, il s'agissait de la loi sur les tziganes ambulants qui leur interdisait de séjourner dans certaines localités. À cette époque-là, comme aujourd'hui, ils ont d'abord été condamnés à vivre en marge de la société avant d'être considérés et étiquetés comme ceux qui ne veulent pas travailler et dont les enfants sont non éducables.
Le non-paiement de la pension alimentaire est un phénomène très répandu en République tchèque. C'est ce dont informe une des éditions de cette semaine du quotidien Lidové Noviny, déjà cité, qui constate que le nombre de parents ne voulant pas payer ce qu'ils doivent à leur progéniture a tendance à augmenter. Il précise.
En Tchéquie, la totalité des dettes de pension alimentaire se situe autour de 5 milliards de couronnes. Selon les données disponibles, on trouve en Tchéquie près de 150 à 170 000 enfants qui ne reçoivent pas la pension alimentaire définie à l'issue de la procédure de divorce de leurs parents.
C'est un amendement aux procédures civiles d'exécution, en vigueur depuis le mois de janvier, qui pourra, selon le journal, améliorer la situation dans ce domaine. Ainsi, les exécuteurs ont désormais, par exemple, la possibilité de confisquer leur permis de conduire aux non-payeurs de pensions alimentaires ou bien de mettre aux enchères leur part dans des logements coopératifs.
Le montant de la pension alimentaire en Tchéquie dépend des revenus du parent qui la doit à des besoins de l'enfant. Il se situe en général entre 9 et 25% de ses revenus.
C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce programme et l'ensemble de nos rubriques sont disponibles en podcast sur notre site internet radio.cz. Et nous vous rappelons qu'à l'occasion du 90e anniversaire de la Radio Tchèque ce samedi 18 mai, Radio Prague diffusera une émission spéciale consacrée à cet événement et à la riche histoire de la radio. Exceptionnellement donc, cette émission sera diffusée ce samedi sur ondes courtes. Nous invitons ainsi tous les passionnés de radio à s'installer confortablement, l'oreille collée au plus vieux de leur poste de réception. N'y manquez pas. Cette émission vous a été présentée par Denisa Tomanova. À très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague.